Au commencement était Dieu. En 6 jours, il créa le monde. Le 7e jour, il se reposa de son œuvre. La semaine suivante, les créatures de Dieu se mirent également au travail. Les hommes créés à l'image de Dieu avaient pour mission de régner sur la création, la cultiver et la préserver. Les hommes reconnurent qu'il y avait la lumière et les ténèbres. Fièrement, ils dirent : Nous sommes la lumière. Et ils se mirent à faire des choses obscures. Ils mélangèrent la lumière et les ténèbres, si bien que le monde sombra dans le crépuscule. Et ce fut le soir, et ce fut le matin, un premier jour.
Ils des tours jusqu'au ciel, afin que leur gloire soit proclamée dans le monde entier. Et ils virent que ce n'était pas assez. Et le soir tomba, et le matin arriva, un deuxième jour.
Et les hommes déchirèrent la terre et les rochers pour leur arracher leurs trésors. Ils forcèrent les plantes à porter du fruit, de plus en plus nombreux et de plus en plus lourds, qui finirent dans les ordures. Ils divisèrent la terre en pays, districts et parcelles pour pouvoir la posséder. Et ils virent que ce n'était pas assez. Et le soir tomba, et le matin arriva, un troisième jour.
Et les gens construisirent des horloges pour contrôler le temps. Et plus ils divisaient leur vie en mois, heures et secondes, moins ils avaient le temps. Avec tant d'activité, ils oublièrent comment se reposer et vivre le moment présent. Ils virent que ce n'était pas assez. Et le soir tomba, et le matin arriva, un quatrième jour.
Et les hommes pêchèrent les poissons de la mer et des lacs, jusqu'à tout vider. Ils remplirent les eaux de toutes sortes de déchets. Ils enlevèrent les lieux de nidification des oiseaux et soufflèrent des gaz toxiques dans l'air. Et ils virent que ce n'était pas assez. Et le soir tomba et le matin arriva, un cinquième jour.
Et les hommes s'imposèrent comme maîtres absolus des animaux. Ce qu'ils pouvaient soumettre, ils l'exploitaient. Ce qu'ils ne pouvaient pas être domestiqués, ils le chassaient. Et ils se réduisirent en esclavage, se volèrent et s'assassinèrent les uns les autres, pensant pouvoir obtenir des avantages. Et ils virent que cela ne suffisait pas. Alors ils ont confié à Dieu lui-même le fardeau de leur désir de pouvoir. Ils se moquèrent de lui, le torturèrent et le tuèrent. Les hommes virent tout ce qu'ils avaient fait et se lamentèrent. Ce ne sera jamais assez. Et le soir tomba, et le matin arriva, un sixième jour.
Et le 7e jour, les hommes ne se reposèrent pas de leur acte, car leur course à la gloire et à la richesse ne voulait pas prendre fin. Et les hommes se désespéraient et maudissaient tout ce qu'ils avaient fait.
Mais voici qu'un nouveau matin se leva, le 8e jour. Seuls quelques fidèles se rendirent au tombeau de Dieu, mais celui-ci était vide. Celui qu'ils cherchaient n'était pas là. Il était ressuscité. Dieu regarda les visages des hommes couverts de saleté, de sang et de larmes et dit : Voici que je suis suffisant. Je fais toutes choses nouvelles et tout deviendra très bon.
Arrogance. sommes tombés si bas, oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi.
Avec Marianne de ce culte, et je lui ai parlé de ce chant, pardon, et qu'on verrait comment on allait continuer. Elle m'a dit, oh là là, quand on entre dans un temps de repentance, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Et moi, ça me réjouit que chacun puisse participer à cette prière de repentance, et je crois que c'est quelque chose qu'on ne vit pas assez souvent en Église. C'est le genre de prière qu'on devrait faire ensemble. Souvent. Mais c'est pas mon propos premier. Aujourd'hui, nous vivons un dimanche pour son prochain. C'est une thématique qui est prise chaque année par plusieurs associations. Elles sont notées tout petit en bas, vous ne les voyez pas forcément, mais il y a Compassion, MEDER, Arocha, la MET, où a travaillé Daniel Beugli. Il y a la mission Braille en faveur des aveugles. Voilà, il y a plusieurs associations chrétiennes qui œuvrent dans le monde en faveur des plus démunis, des pauvres, et en faveur de la création, parce que tout est lié. Et vous voyez que le thème de cette année, assez pour tous, vivre pleinement avec moins. Et l'image, si vous n'avez pas tout à fait décodé, c'est un cookie. C'est un petit biscuit rond avec des pépites de chocolat, et c'est tellement bon. Alors, on peut juste regarder le diaporama. N'est pas forcément riche celui qui prétend l'être. Parfois, on peut n'avoir qu'un cookie, mais on est tellement riche. On a une telle plénitude de vie et de compréhension qu'on est capable de le casser en deux pour l'offrir à quelqu'un qui a une belle voiture et plein de vêtements et je ne sais tout quoi. Et quand on voyage dans des pays où sévit la pauvreté, je peux vous dire que ça fait bizarre quand on repart de chez des gens pauvres avec les mains remplies de cadeaux, quand on sait qu'ils ne mangent pas à leur faim. Et pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité qui n'est pas rare. quand on réfléchit aux différentes facettes de « Assez pour tous, vivre pleinement avec moins », ça touche à beaucoup de thématiques, à beaucoup de facettes, comme les questions d'inégalité, de richesse, de générosité, d'écologie, de suffisance, de contentement. Et tout se regroupe d'une certaine manière, mais on ne peut pas tout aborder ce matin. Alors ce matin, on va prendre l'angle de la création. La prédication que je vous dis n'est pas de moi, elle est de Dave Buckles, qui est quelqu'un qui travaille avec l'association Arocha, qui est une association en faveur de la création, de la préservation de la création. Mais j'adhère complètement à ce qui est dit dans ce propos. Alors il y a aussi un petit peu de moi, il y a un peu de mes tripes, mais que vous sachiez que ça n'est pas de moi. Et le poème que nous avons lu tout à l'heure, il était de Christian Morf. Il a été écrit initialement en allemand et il a été traduit par Alexis Bourgeois, qui est responsable de Stop Pauvreté. Voilà. La question, c'est de se poser, mais comment est-ce qu'on peut œuvrer pour une création florissante ? Alors, on n'aura pas toutes les réponses aujourd'hui. Au niveau pratique, on n'aura pas toutes les réponses, de loin pas. Mais le but, c'est qu'on commence déjà par avoir une sensibilisation. Et les défis environnementaux et la pauvreté qui nous environnent nous rappellent chaque jour que nous vivons dans un monde en souffrance. Même les tremblements de terre, il y en a eu un en Syrie, en Turquie. Mais il y a moins d'une semaine, il y en a un qui s'est senti jusqu'à la Chaux-de-Fonds. Je ne sais pas si vous l'avez senti.
Non, je l'ai entendu.
Et l'alerte sur le site de Météo Suisse est toujours valable. Ce tremblement de terre, il a eu lieu dans un village ou une ville du Jura français, et puis c'est arrivé jusqu'à chez nous. Moi, je l'ai senti. J'étais en plein entretien, j'étais chez quelqu'un en plein entretien, dans une maison bâtie en dur, en solide, et tout à coup ça a tremblé, mais on était dans une conversation importante, j'ai pas voulu m'interrompre, mais je me suis dit c'est bizarre, il n'y a pas de train qui passe vers cette maison ou quelque chose qui pourrait faire que ça vibre. Et c'est le soir, quand j'ai regardé sur mon téléphone la météo pour savoir comment j'allais m'habiller le lendemain pour aller à l'école, que j'ai vu un espèce de sigle à côté de la Chaux-de-Fonds, un truc rond. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est pas une alerte neige, ni gel, ni vent, ni pluie, ni crue. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai descendu un peu la page et il y avait marqué séisme. 15h50, mercredi. Ah, c'était ça. C'était rien du tout. C'était rien du tout. Et c'est pas le premier que je sens en Suisse. Mais ça peut revenir et ça peut revenir plus fort. Et la question n'est pas de se dire, mais oulala, ça pourrait venir chez nous. Mais c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on est privilégié que jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé chez nous. Mais on n'est pas meilleur qu'ailleurs. On est juste privilégié d'avoir été posé ici. Alors ce matin, nous allons parler d'écologie. Un terme qui est composé de deux mots, éco. Logie. Éco, ça vient du grec, enfin, comme beaucoup de vocabulaire français vient du grec. Éco veut dire maison, habitat, oikos. Et logos, c'est la parole, le discours. Donc le discours de l'habitat veut dire la science de l'habitat. Et quel est l'habitat? Ben, l'environnement dans lequel nous sommes placés, donc toute la création. Le but, c'est d'ouvrir nos yeux sur l'abondance de cette création. Et d'essayer de refléter cette abondance que Dieu a mis dans sa création. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il faut aller chercher à ce qu'on a dans notre cœur. Il faut qu'on soit sensibilisé. Quelles sont nos véritables motivations? Parce qu'en fait, on a besoin d'un changement de cœur pour s'occuper de la création. Et la question, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'écologie dans l'Église? Est-ce que c'est vraiment adapté de parler de ça dans l'Église? Eh bien, en général, on n'aime pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'il y a eu des déviances et qu'il y en a encore. Je parle par exemple du véganisme. Je ne sais pas si vous savez, mais le véganisme n'existe pas. quand on ne veut rien consommer qui pourrait tuer des animaux, on se trompe complètement parce qu'il faut produire plus de céréales et quand on produit plus de céréales, on écrase encore plus d'animaux qui sont sous la terre. Mais c'est juste qu'ils sont petits et on ne les voit pas. Comprenez l'hypocrisie. Il y a des déviances parce que beaucoup de personnes qui sont proches de l'écologie dévient dans l'ésotérisme. Et on va commencer à embrasser des arbres pour ressentir l'énergie. Bien sûr qu'il y a de l'énergie dans la création. Dieu a mis de l'énergie. Mais si on en fait une idole, si on l'utilise de la mauvaise manière, ça ne sert à rien. Il faut plutôt comprendre à quoi sert l'énergie. Et il y a une troisième raison. C'est que ça vient justement chercher des choses en nous que nous n'aimons pas. Parce que ça nous met en face de nos inconséquences. C'est parce qu'on pourrait être culpabilisé. Parce que notre consommation de tout, de téléphone, d'ordinateur, de voiture, même de train, même de bus, de voyage, de vacances, de nourriture, de vêtements, de tout ce qu'on fait, d'eau chaude, de chauffage, tout ce qu'on fait, ça pollue. Même manger, on n'est plus capable de manger sans tuer. C'est grave. Mais ça nous met en face de nos inconséquences parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous enlève du luxe. Alors on préfère mettre la tête dans le sable et puis on continue comme ça. On fait un peu attention et puis à la fin du mois, s'il reste un peu des sous, on les envoie à Stop Pauvreté et puis c'est bon. Ouf. Je me suis dédouanée de mon devoir de m'occuper des pauvres. Aïe, aïe, aïe. Voilà quelques raisons qui font qu'on n'aime pas parler de ces sujets. Mais pourquoi il est important d'être sensibilisé à l'écologie, c'est-à-dire à la science de l'habitat, mais surtout à la préservation de l'habitat, de la création? Eh bien, il y a quatre grands thèmes qui sont développés ici. Nos motivations, elles devraient l'être déjà par amour. Ensuite, par mandat et obéissance. Ensuite par justice et ensuite par espérance. Dans Genèse 1, 31, il est question de Dieu qui aime toute sa création. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il n'y a pas marqué, Dieu regarda l'être humain et il constata que c'était très bon. Non, il a tout regardé. Il a regardé déjà les luminaires qu'il a mis dans les cieux, la manière dont ça tourne, dont ça fonctionne, et les végétaux, et les animaux, et les êtres humains. Tout ce qu'il a fait, pour qu'il puisse dire c'était très bon, il a fallu que l'être humain, homme et femme, soit créé. Et là, la création était achevée. Mais Dieu n'a pas juste pris une catégorie pour évaluer, pour estimer que tout était très bon. Et si on prend un autre verset que vous connaissez sûrement par cœur, la plupart, Jean 3,16, qui c'est qui peut le proclamer? Allez, à vos marques, prêts, partez, feu, Dieu. Dix sur 10. Question subsidiaire, le mot « monde » en grec, c'est quoi? Sachant qu'on a le même mot en français. Vous irez vérifier à la maison ceux qui ont le logiciel avec les Strong ou bien des livres avec les Strong. Les Strong, c'est des petits chiffres qu'on voit sur chaque mot de la Bible et quand on clique dessus, ça nous montre quel est le terme en grec ou en hébreu et qu'est-ce que ça veut dire. Dieu a tant aimé le cosmos qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cosmos. Quand on parle du monde, ce n'est pas seulement l'esprit du monde ou le monde, la population humaine. Le monde, c'est le cosmos, c'est l'entier de la création. Dieu a tellement aimé l'entier de la création qu'il a donné son Fils unique. Jésus s'est sacrifié pas seulement pour notre salut, mais pour que tout soit réconcilié en lui. même la végétation. Alors, il ne s'agit pas du même salut que nous, on est d'accord. Il ne s'agit pas de la même chose. Mais depuis Genèse 3, tout a changé. La nourriture qui venait à profusion pour Adam et Ève, il y a des choses qui ont changé parce que le travail a dû être différent. Il a fallu, tout à coup, il y a eu des ronces, tout à coup, il a fallu travailler à la sueur du front, alors qu'avant, il suffisait juste de cueillir les choses, c'était là. Il y a des choses qui ont changé. Mais il y a aussi une création qui soupire après la révélation des fils de Dieu. Elle soupire à ce que quelque chose change. Dieu a tant aimé toute sa création qu'il s'est sacrifié pour elle. Et nous en faisons partie. Et nous sommes les plus précieux, bien sûr. Mais on ne peut pas occulter toute une partie de la création parce que nous sommes les plus précieux. Il y a plein d'échantillons concernant l'amour de Dieu pour sa création. Par exemple, Dieu sauve un échantillonnage de toutes les créatures vivant sur la terre dans l'arche de Noé. Lors du déluge, il établit son alliance avec tous les êtres vivants. On peut aller dans Genèse 9, les versets 8 à 11, après la sortie de l'arche. Une fois que la famille de Noé et les animaux ont été sauvés, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue. » Et cette fois, il est question de l'arc-en-ciel dans le passage qui suit. Et moi, je trouve génial parce que Dominique ne savait pas tout ce que j'allais dire. Et elle a choisi un arc-en-ciel pour diffuser les chants. Et moi, je trouve ça génial, le nombre de fois où cette sensibilité prophétique est là et tout se tient. Et là où je suis tellement touchée par le Seigneur, c'est qu'il y a environ une semaine, il y a eu un magnifique arc-en-ciel où la moitié de l'église l'a pris en photo et puis l'a mis sur le groupe WhatsApp. Et vendredi, quand je rentrais de l'école depuis la région de Vevey, mais il y avait un temps en fin de journée, mais la pluie qu'il y avait sur la route, je ne voyais pratiquement pas la voiture devant moi, c'était vraiment quelque chose. Et en arrivant depuis Mora, ensuite Gampelen, ça a commencé à aller un petit peu mieux, il pleuvait plus. Je sors des tunnels à Neuchâtel vers Vaucéillon, et là je distingue un coin de ciel bleu, je me dis « il doit y avoir un arc-en-ciel ». Je fais les gorges du Seillon, j'arrive à Valangin, je voyais que le ciel était noir à droite, il était bleu à gauche. Je me dis, mais il est où? Seulement, je conduisais et j'arrive au Val-de-Rue. Il y avait un énorme arc-en-ciel. Alors, on voyait seulement sa base à droite et moi, je ne pouvais pas... J'étais vraiment frustrée de ne pas bien le voir. Il y avait juste sa base. Mais cette base-là, elle était tellement énorme que je ne sais pas jusqu'où il pouvait aller. Et je me disais, mais Seigneur, ne c'était pas tellement dans ce sens-là, mais il y en avait peut-être un chez nous, parce qu'en sortant du tunnel ici, le ciel était bleu et la route mouillée, donc il y a dû avoir. Alléluia! Je te mets merci Seigneur. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on a choisi de faire un dimanche pour son prochain? Parce qu'il y a deux semaines, j'ai prêché sur Matthieu 6. Vous souvenez, les oiseaux. Et le Seigneur montre des arcs-en-ciel pendant la même semaine. Comme pour dire, mais c'est juste. Enfin, moi, je le prends pour moi. Ça me fait du bien. Dieu connaît chaque recoin de sa création, au point d'envoyer la pluie, même là où il n'y a pas d'habitants. Job 38, à partir du verset 25. « Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants ?» Sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. Dieu se préoccupe de sa création, même là où il n'y a pas d'être humain. savez ce que c'est le chef-d'œuvre de Dieu? Maintenant, ils n'osent plus dire. Ils ne vont surtout pas dire la femme, parce qu'on sait qu'elle a été créée en dernier, donc c'est la plus... Enfin, voilà. L'hippopotame. Ah, il y en a qui valident. Ah oui, c'est vrai. C'est aussi dans Job. Job, je vous laisserai aller voir. Job 40, à partir du verset 19, mais selon les traductions, ce ne sera pas 40, ce sera le 39. Enfin, bref, les numérotations de versets peuvent changer. Mais il y a toute une description de l'hippopotame. Beaucoup de versions parlent du chef-d'œuvre, et puis la seconde, 79, elle parle de la première œuvre. Et cet hippopotame, il est décrit, mais c'est juste incroyable. C'est pas un être humain. Et le psaume 48, vous pourrez peut-être le lire. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous, tous ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutez ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards, enfants. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Toute la création est inclue. Dieu aime sa création et il y a un autre pan. Pourquoi s'occuper de la création? C'est par mandat et donc par obéissance. Vous vous souvenez dans Genèse 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Autrement dit, pour en prendre soin, pour le protéger, pour le garder, pour l'observer, pour le faire prospérer. Voilà le mandat que nous avons reçu. Ça veut dire que nous sommes redevables envers Dieu dans tout ce que nous faisons par rapport à sa création. Il va nous redemander des comptes. Dans Apocalypse 11, 18, il est noté « Les nations se sont irritées, mais ta colère est aussi venue. Voici le moment de juger les morts. » De récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors on est où nous?
Au milieu.
Ben c'est un peu ça. C'est vraiment ça. C'est comme si vous imaginez, vous savez là, une corde. Et puis il y a une équipe qui tire d'un côté, puis une équipe de l'autre, et puis il y a une tension, puis il y a le milieu de cette corde, et puis il faudrait pouvoir arriver au centre. Parce que nous sommes dans un monde déchu, et nous sommes déchus. Donc d'un côté, oui, nous faisons partie des petits, nous faisons partie de ceux qui craignent Dieu, mais nous faisons aussi partie de ceux qui détruisent la terre. Mais on n'arrive pas à faire autrement, parce que nous sommes dans un monde déchu, nous sommes déchus. La question est, où est le juste milieu? Comment est-ce que je peux essayer d'avancer dans le bon côté pour faire toujours mieux ou toujours moins mal? C'est ça qui doit nous interpeller. Qu'est-ce que, à mon niveau, je peux faire pour prendre soin de cette création? Parce que j'en ai reçu le mandat. Mais je sais que j'arriverai pas à faire tout bien. C'est pas possible. Et Dieu le sait aussi. Dieu ne va pas me juger sur des choses impossibles. Mais par contre, Dieu est là pour m'aider à comprendre, moi, dans mon quotidien, dans ma réalité, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qu'il faut que j'évite de faire. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à cela. Ce qui serait dangereux, c'est de dire « je m'en fous ». Voilà, ça, ce ne serait pas génial. Mais dès que notre cœur est prêt à se laisser toucher et changer, nous sommes du bon côté. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, je ne sais pas si c'est ça ou pas. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, pardon, et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Il est question là de soumettre et de dominer. Mais on en avait déjà parlé il y a un certain nombre de mois ou une année. Ces verbes-là, c'est pas de l'oppression. C'est pas une domination mauvaise ou négative. Parce que ce mandat, il a été donné avant la chute. Et à ce moment-là, il n'y avait aucune connotation négative concernant ces termes. Jésus, lui, il a toute l'autorité pour dominer et pour soumettre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait serviteur et il s'est abaissé pour servir. Il s'est complètement abaissé et ça n'a rien enlevé à son autorité. Les démons se manifestaient, il suffisait qu'ils disent dehors. Avec le doigt de Dieu, paf, et c'était dehors. Il décide de marcher sur l'eau, il marche sur l'eau. Il décide de multiplier des pains, il le fait. Mais il était là en serviteur. Il n'a jamais été là pour casser les gens, pour les dominer ou les oppresser. Et c'est de la même manière que nous devons servir la création, c'est avec le cœur de serviteur. C'est marrant, quand on commence à faire du jardin, il faut se mettre à genoux. Ça ne veut pas dire qu'on se prosterne devant la terre, comprenez-moi bien. Mais ça veut dire que notre cœur reconnaît qu'on a un Dieu dans les cieux qui nous a donné un mandat et qu'on se fait serviteur pour lui obéir et pour s'émerveiller de sa création. Un troisième pan, c'est la justice. Prendre soin de la création, c'est aimer son prochain. Et être conscient que ce que je vis dans mon quotidien a des répercussions même de l'autre côté de la planète. Quand je consomme beaucoup d'énergie, ça crée des sécheresses ailleurs. Ça crée des tremblements de terre. Ça crée des glissements de terrain. Et ça, c'est des choses qu'on ne nous a pas trop enseignées. C'est maintenant que ça commence à venir. Moi, à l'école, quand j'étais gamine, on ne m'a jamais parlé de ça. Jamais. C'était apprendre un bon métier pour avoir un bon salaire et bien vivre. Et maintenant, les consciences sont en train de changer. Et les non-chrétiens ont beaucoup d'avance sur nous. Et c'est pour ça qu'il nous faut mettre les bouchées doubles, mais de la bonne manière. Le 20% des plus riches, des gens de la terre, consomment 16 fois plus que le 20% des plus pauvres. Et les peuples les plus vulnérables sont les premiers à souffrir du réchauffement climatique causé par nous. Alors pas seulement nous. Il y a des entreprises tellement inutiles qui polluent. Bien sûr, il y a des gens tellement plus riches que nous. Mais regardez notre consommation, la mode par exemple. La mode qui change tout le temps. Les gens qui créent nos habits. Il faut aller regarder un peu de quel pays ça vient. Quelqu'un qui travaille à 100%, ça c'était il y a quelques années, je ne suis pas allée me renseigner dernièrement. En Chine, il fallait travailler à 100% pour faire nos habits, pour recevoir un salaire qui couvrait le 50% minimum vital. Alors moi, je me suis dit, je vais acheter des habits qui viennent de plus près, l'Europe de l'Est, Roumanie, etc. Et je suis allée me renseigner. Ils reçoivent encore moins. Ils recevaient autour du 30% du salaire vital en travaillant à 100%. Donc c'est des gens qui doivent se débrouiller pour travailler jour et nuit. Ça vaut la peine d'aller lire les étiquettes quand on achète un habit. Et il existe un site qui s'appelle Public Eye qui dénonce ces choses et qui, par exemple, propose des courriers qu'on peut recopier et envoyer au magasin aux directions des magasins pour dire, est-ce que vous pouvez me dire où sont fabriqués les vêtements et quelles sont les conditions de travail de vos collaborateurs? Est-ce qu'ils ont le 100% du salaire vital là où ils vivent? Et si beaucoup de monde fait ça, ça touche les consciences. Il y a un temps, c'était presque à la mode de faire ça, puis ça s'est un petit peu oublié. Autant économiser puis acheter des habits qui coûtent plus cher mais qui durent plus longtemps et qui n'ont pas été faits n'importe où, n'importe comment. Priez pour ceux qui font nos habits. Ça, c'est les habits. Mais il y a d'autres choses. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6:8. C'est à nous de choisir de chercher la justice pour les plus vulnérables. Et le quatrième pan, c'est l'espérance. Colossiens 1:20. Colossiens, c'est un de mes livres préférés. Ouais. Colossiens, c'est juste magistral. Toute la parole est magistrale. Mais il y a des révélations concernant Jésus. Colossiens 1, le verset 20. J'ai même envie de vous le lire avant. On va le lire depuis le verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La réconciliation, elle est pour toute la création. La réconciliation en Jésus ne touche pas seulement l'être humain. Mais nous avons cette espérance qu'elle vient, cette réconciliation. Il y aura une nouvelle terre. Je ne suis pas sûre que c'est celle-ci qui sera détruite. Quand on commence à vraiment étudier les textes, on se dit, mais non, ce sera plutôt... Elle va être comme refaite, comme restaurée. Là, il y a encore du mystère, mais ce n'est pas sûr que tout sera balayé d'un coup. Mais commençons déjà à faire ce qu'on peut. Et essayons d'imaginer, mais quand Dieu aura tout réconcilié, mais ce sera tellement majestueux et glorieux. Et même si on ne comprend pas tout, ce n'est pas grave. Dieu, lui, il sait comment est-ce qu'il va faire les choses. Et on sait qu'il va les faire. Alors, obéissons à son mandat. Et rappelons-nous de l'arc-en-ciel qui nous rappelle son alliance. Il est fidèle à sa parole, ça va s'accomplir. Romains 8, 20, 21. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, la création, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Toute la création va prendre part à la liberté des enfants de Dieu. Alors, Dominique, je te demanderai de mettre la suite du PowerPoint, s'il te plaît. Que peut-on faire? Que signifie vivre pleinement avec moins? Je crois que c'est différent pour chacun de nous. Je pense qu'il y a des grands principes qui s'appliquent à chacun. Et en même temps, nous avons tous notre réalité. Il faut demander au Seigneur, mais moi, qu'est-ce que je peux faire en premier? Non, pas celui-là, la suite de l'autre, excuse-moi. Celui-là, c'est le dessert. Voilà, tu peux aller jusqu'à ce que tu vois un triangle avec une maison au milieu.
Là.
Voilà. Il y a des grands principes qui parcourent toute la Bible. Et c'est ce schéma. Au commencement, Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Et il a créé toutes choses. Il a créé l'humanité et il est en communion avec l'humanité. Et il a mandaté l'humanité pour gérer la nature qu'il a aussi créée et dont il est le propriétaire. Nous ne sommes pas propriétaires de notre bout de planète. Même si vous êtes propriétaire de votre maison et de votre terrain, sachez que vous n'êtes pas propriétaire. Et la banque non plus. La terre, là, elle n'est pas trop ronde, elle a la forme d'une maison pour qu'on comprenne que la terre, c'est notre habitat. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la chute ? La communion entre Dieu et l'homme a été brisée. Ce qui fait que l'humanité a commencé à dominer négativement sur la nature. Et Dieu et la nature, c'est comme si la nature lui avait été volée à Dieu, puisqu'on est en train de tout détruire. Et cette nature, elle attend aussi cette révélation des fils de Dieu et la réconciliation. Depuis l'œuvre de Jésus-Christ, on est dans le « déjà et pas encore ». Dans le « déjà », c'est que notre communion entre Dieu et nous est en train d'être restaurée. Et une bonne partie est déjà faite. Mais c'est ceux qui ont accepté Jésus, c'est encore pas tout le monde. Mais on y travaille. Et à cause de la croix de Jésus, on a commencé aussi à avoir cette conscience, mais on doit s'occuper de la création. Alors la gestion, elle peut commencer à se faire mieux, mais tout le monde n'a pas cette conscience. Mais c'est les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Et plus on va s'occuper de la création, plus on entre dans les projets de Dieu pour être prêt le jour où il vient tout réconcilier avec lui-même. Ce schéma, c'est le même qui parcourt toute la Bible, mais il y a un moment donné, au lieu de mettre la nature, on peut mettre le pays, on peut mettre la terre d'Israël, et c'est le même principe. Alors tu peux passer à la suivante. Voilà, au départ, l'écologie, ça sonne pas forcément bien, parce que l'écologie a vécu des déviances. Quand on aborde l'écologie d'une manière égocentrée, je suis centrée sur mon ego, sur moi-je, on a ce schéma-là qui a eu cours pendant des siècles. C'est l'homme en haut, la femme en dessous. Ouais, à gauche, ça ne se voit pas trop, mais c'est une femme. Et qui domine et qui oppresse et qui gère tout et qui décide pour tout le reste de la création. Et ensuite, des gens ont quand même commencé à se dire « mais ça ne va pas, ça ». Ils ont voulu changer le schéma. Et on arrive à une écologie, tu peux changer, éco-centrée. Et c'est là où on trouve l'ésotérisme et toutes ces choses-là, où tout à coup, l'homme et la femme, ils sont complètement confondus avec le reste de la création. Ils n'ont plus leur place de gestionnaire, d'être supérieur, parce que quand même les êtres les supérieurs de la création, malgré tout. Et puis là, tout est confondu, et puis c'est là qu'on se dit, mais en fait, il faut mettre des lois, un tribunal pour les animaux, parce qu'en fait, ils sont l'équivalent de l'homme. Enfin, toutes ces choses-là, tout ce qu'on peut entendre maintenant, c'est une vision éco-centrée. Et c'est faux. Mais il y a une troisième vision que nous devons adopter. Tu peux la mettre, Dominique ? Merci. Une vision théocentrée. Théo veut dire Dieu. Si nous avons Dieu au centre, l'homme et la femme, il n'est pas forcément question du couple marié, c'est l'humanité masculine et féminine, des hommes et des femmes qui sont des vis-à-vis, des partenaires complémentaires, qui ont reçu des choses différentes et qui doivent les mettre ensemble pour pouvoir gérer tout ce qui leur a été confié avec amour, d'où la forme du cœur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Chacun a sa juste place dans un mandat saint, dans la crainte de notre Père qui nous a créés et qui nous a placés dans une position de vulnérabilité. Tu peux l'enlever, merci. Alors comment faire ? Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas énormément de pistes concrètes. C'était déjà une sensibilisation. comprendre que l'écologie, il ne faut pas tout mettre à la poubelle, mais il faut bien trier, puis juste voir devant Dieu. Mais une des premières choses qu'on peut faire, on l'a vu il y a 2 semaines, c'est observer la nature et aller dans une attitude de gratitude. Romains 1:20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Si nous commençons à observer, dans Matthieu 6, il était question aussi de l'herbe des champs qui a été encore mieux revêtue, mieux parée que Salomon. Elle est tellement simple qu'on les foule aux pieds, qu'on les coupe, puis qu'on les jette, puis qu'on les brûle. Et pourtant, si on observe les fleurs des champs, les fleurs sauvages, et qu'on regarde comment Dieu les a parées, mais c'est juste incroyable. Observons déjà la création, émerveillons-nous et remercions Dieu. C'est la première étape. Et ça, nous pouvons tous le faire. Voir avec nos yeux, entendre le chant des oiseaux, sentir les bonnes odeurs des fleurs des champs ou du thym selon où on va se promener. Toucher la matière que Dieu a créée. Ce n'est pas seulement les yeux. Mais regardons aussi comment ça fonctionne. Autorisons-nous à regarder nos défis, nos manquements en face et à pleurer avec l'ensemble de la création. C'est ce que nous avons commencé à faire tout à l'heure. Or, Romains 8, 22, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous souffrons avec elle. Et ensuite, eh bien, il faut aller de l'avant et demander comment faire avec ma gestion de la nourriture, avec mes loisirs, mes voyages, mes achats, mes déchets, mes habits, la place que je laisse à la biodiversité dans mon jardin, si j'ai un jardin. Est-ce que je vais préférer une belle pelouse toute verte avec toutes les herbes coupées à la même hauteur et surtout plein de produits chimiques pour enlever les mauvaises herbes? Ou est-ce que je vais favoriser la biodiversité? C'est quoi la biodiversité? Si vous allez dans une forêt, vous n'allez pas voir le coin des arbres, le coin des buissons, le coin des fleurs, le coin des herbes. Tout est mélangé, mais pas n'importe comment. C'est ce qu'on appelle un écosystème, un groupe de végétaux différents mais complémentaires. Et quand on commence à observer cette complémentarité, même les racines des arbres qui vont donner des messages aux arbres suivants, s'il arrive un coléoptère qui va tout bouffer, et ils se transmettent, et puis les arbres, ils sont en train de diffuser des mauvaises odeurs pour que ce coléoptère aille juste attaquer une seule branche qui va se sacrifier. Enfin, si vous observez, c'est juste hallucinant. Alors, si vous avez un petit coin de jardin ou un balcon, même des pots de fleurs, occupez-vous-en en étant conscient que vous occupez de la création. Si ça fait simplement venir des abeilles à l'extérieur, vous avez déjà gagné une bonne bataille.
J'avais mis du miel, il y avait
plein d'abeilles. Ben ouais. Après, il faut faire attention, c'est un peu dangereux. C'est peut-être pas du miel qu'il faut mettre, mais que les abeilles trouvent des fleurs à polliniser. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Soyons dans la confiance que Dieu pourvoit. N'ayons pas peur de partager. Faisons des choix qui honorent son nom. Jésus nous invite à adorer Dieu en prenant soin de ce monde fragile et merveilleux. Et je crois que pour digérer tout ça, on va simplement projeter un diaporama. C'est là qu'il y aura du son, Josquin, si ça fonctionne.